Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour Parler Temps qui court, qui écoute les artistes tous les soirs pendant une heure. Titoun et Bonaventure Gacon ce soir.
Un tango, une danse, un baiser.
Tu peux taper, péter, péter.
Parler Temps qui court.
Ça y est, tu vas te voir.
Marie Richeux.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Seuls les cœurs battants résonnent et dans leur écho, il est possible d'entendre des chats bleus pailletés sur des trapèzes, des éléphants au souffle court, des baleines en forme de cloches, des cloches en forme de navires, des échelles venues des volcans et des humains qu'on jette dans le trou. Seuls les cœurs battants résonnent et donc, sous un petit chapiteau, tout de suite, ça peut résonner fort. En ce moment, dans le grand hall du 104 à Paris, le cirque Trottola a installé toiles, gradins et planchers. Deux humains, souvent ahuris d'être là, apparaissent, creusent les sous-sols et le sens et nous offrent des visions, grandes ou toutes petites, en tout cas très précieuses. Deux autres humains jouent de la musique un peu plus haut, comme on porte à bout de bras. Campana, c'est le titre de ce nouveau spectacle. Titoun et Bonaventure Gacon, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être là. C'est un spectacle qui est programmé par le Théâtre de la Ville et le 104, mais c'est visible au 104 jusqu'au 22 décembre et ensuite c'est en tournée. Il y a encore un petit peu de place si on se presse, si on a de la bonne volonté, si on va vite sur le site internet. Du 6 au 10 février à Istres, du 19 au 23 février à 7, du 9 au 13 mars à Elbeuf et du 23 au 27 mars à Fleury. Comme il est beaucoup question du temps, eh bien on le remonte. Rendez-vous en 1949.
Je m'appelle Romuald et je suis âgée de 10 ans et je connais tout.
Ah, tu connais tout dans le cirque?
Oui.
Je peux te mettre à l'épreuve un petit peu?
Oui, si vous voulez.
Bon, alors je vais te poser des questions et on va voir si tu vas répondre. Oui. Quelle est la longueur du chapiteau?
48 mètres sur 40.
Et quelle est la hauteur des mâts?
15 mètres, à peu près.
Il y a combien de mâts?
4.
Il y a combien de places sous le chapiteau?
Ce chapiteau, il y a à peu près 4000.
Combien de chaises?
300-350.
Quelle est la durée du spectacle?
3 heures.
Combien y a-t-il d'hommes dans le cirque?
60, à peu près.
Quel est le diamètre de la piste?
14 mètres.
Quel est le poids de la sûre qu'on met dans la piste?
Une tonne à peu près.
Il y a combien de bêtes?
Il y a 6 cages remplies de bêtes.
Ah bon? Et il faut combien de kilos de viande par jour pour les bêtes?
300 en tout, pour toutes les bêtes.
Il faut combien de kilos d'avoine?
50 kilos.
Je vais encore te poser une question. Celle-là ne fait plus tout à fait partie des questions qui intéressent le cirque. Est-ce que tu vas à l'école de temps en temps?
Oui, l'hiver, je vais l'hiver.
Tu sais lire, écrire?
Oui, un peu. Je sais lire, mais pas trop écrire.
Et tu joues de quels instruments de musique?
Je joue le saxo et la guitare.
Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans le cirque?
Eh ben, je ferai le clown.
C'est pas mal de commencer cette conversation avec un enfant parce que dans votre note d'intention à tous les deux, Titoun et Bonaventure Gacon, vous dites, entre autres choses, qu'il s'agit de travailler ce qui nous rend enfants. Alors c'est bien qu'un Romuald de 10 ans en 1949 nous mette sur la piste, mais peut-être on pose le décor quand on rentre dans le hall du 104 en ce moment. Eh bien, il y a quelque chose de très touchant de voir un chapiteau qui est contenu dans un hall. Et peut-être parce qu'il a des dimensions particulières, est-ce que vous pouvez nous en parler?
On va dire que c'est un grand chapiteau pour les petits chapiteaux, et puis c'est un petit chapiteau pour les grands. Et on se retrouve là, sous cette halle, donc c'est tout à fait étonnant. Et nous, ça, au niveau de l'architecture, c'est... voilà, on a ce gros chapiteau qui paraît petit parce que la halle est grande. Alors on ne sait plus par quel bout attraper le petit et le grand. Et il se trouve que, voilà, à Paris, ou comme dans toutes les places, dans toutes les villes en France, toutes les places ont été investies par des architectes qui ont mis du marbre, quelques petites marches, une petite fontaine, qui fait que cette page blanche qui était magnifique, qui se trouvait au milieu des villes où on pouvait y jouer au foot, amener un camion, des animaux, un cirque, pourquoi pas y jouer à la pétanque, elle est souvent devenue figée. Et notamment à Paris, il y a très peu de place maintenant pour mettre un cirque. À Dijon aussi, il y avait une très belle place, par exemple. Et c'est assez dommage. Alors on se retrouve, grâce à José Manuel aussi du 104, nous inviter dans cette halle. C'est-à-dire on est obligé de jouer des coudes pour trouver où mettre un cirque. Et ça donne des lieux insolites comme ça, comme celui-là au 104. Pour nous, c'est super. C'est... En plus, comme ça, quand il pleut, on est à l'abri.
Ça veut dire dans les autres villes, vous pouvez les installer plus confortablement, le chapiteau ?
Confortablement, là, c'est très confort. Hein, c'est béton lisse au sol, tout ça. Là, là. Après, dans les autres villes, c'est vrai que des fois, on arrive, il y a des places, ça ressemble un peu à des terrains vagues, comme ça. On est là, oula, fou, c'est pas très accueillant. Et ce qui est génial avec le chapiteau, c'est qu'on fait le montage, on met les caravanes, on met le campement. Voilà, c'est vraiment le petit campement qui s'organise autour du chapiteau, les lampions qui s'allument. Et tout de suite, ben voilà, ça fait une tache rouge qui arrive dans un décor des fois un peu maussade. Et ben, ça change tout.
Et on, change, ouais.
On se sent vite chez nous, très vite.
Mais bon, quand même, pour passer de temps à autre dans la grande halle du 104, ça change tout quand même. C'est-à-dire que poser en fait un chapiteau dans un endroit, ça change l'air. On se disait tout à l'heure avec Lou qui participe à la préparation de l'émission aussi que rien que de le voir, eh ben, ça nous a mis dans un état particulier. Est-ce que vous sauriez dire pourquoi tous les deux ?
Bah, c'est sûr, parce que beaucoup de gens ont vu des cirques enfants déjà, et puis c'est moi ce que j'adore aussi, c'est quand les gens ils passent autour du chapiteau, des fois je suis étonnée comment tous les enfants, les petits, ils sont là, ah, chapiteau, cirque, ils parlent comme ça et ils connaissent, je veux dire, c'est vraiment tous les gamins savent ce que c'est qu'un chapiteau, et ça passe à quelque chose que tout le monde a déjà vu, et il y a, je pense qu'il y a des bons souvenirs avec cette chose là. Et c'est sûr que ça amène de la couleur, ça amène de la gaieté, je pense, avec les lampions, les caravanes, ça amène une certaine envie de liberté et tout ça.
On entendait aussi dans la voix de Romuald de parler du nombre d'hommes. Enfin, on lui pose cette question-là, il y a combien d'hommes ? Et je trouve que c'est une bonne question à poser au cirque Trottola. Il y a combien d'humains, je dirais, pour faire ce spectacle-là, Campana ?
C'était assez joli qu'il dise ça parce que ça fait appel à un équipage.
Ouais, complètement.
Comme un vaisseau, un navire. Et alors nous, on est 10, on n'est pas 60, on est une dizaine, quoi. Entre
combien de kilos de viande ?
Ça dépend si vous parlez de Titoun ou de moi. Non, mais il y a aussi que d'avoir un chapiteau comme ça dans une ville, et je trouve que le cirque, il a cette place-là, même dans l'architecture, c'est-à-dire que tout d'un coup, ça bouleverse la réalité, ça bouleverse le quotidien, ça nous rappelle que la réalité est changeante, que tout d'un coup, et elle est éphémère. Et je pense que ça, c'est ce qui ravit les gens aussi. C'est tout d'un coup le train-train quotidien, le réel, est tordu grâce au cirque.
Il y a une option de possible qui va peut-être un peu trembler, quoi. Ça va peut-être être un petit peu différent.
Ouais, ouais. Et c'est ce qui nous anime, quoi, nous, les gens de cirque.
Bah, c'est sûr que c'est, pour nous aussi, c'est très agréable d'avoir son propre lieu qu'on déplace de ville en ville, et ça amène une petite ce côté un peu liberté, et puis ce côté aussi facile d'accès pour les gens. Il faut soulever la toile, enfin c'est un bout de toile, c'est des fois sur des terrains vagues, de la boue, des choses comme ça, et les gens ça reste facile d'accès, les chapiteaux, c'est ça qu'on aime beaucoup aussi avec ça.
Un des plus beaux compliments qu'on a eu, c'est on était dans un petit village, je crois en Ariège. Ouais. Le chapiteau était pratiquement aussi grand que la
place.
C'était
celui-là ?
C'était presque l'autre qui était à peine plus petit, on va dire. Et les gens nous ont dit, ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, ça résume, quoi.
Ce petit garçon, Romuald, aussi, en 1949, il est capable de donner la hauteur des mâts, ouais, et le diamètre. C'est vrai que vous disiez tout à l'heure, Bonaventure Gacon, c'est pas, c'est grand pour un petit chapiteau et c'est petit pour un grand chapiteau. Mais il y a quelque chose des échelles, en effet, quand on rentre dedans, on sait pas trop si c'est grand ou si c'est petit. On sait pas non plus si notre corps est grand ou s'il est très petit. Et quand ça commence un peu à voler dans les airs ou bien à s'enfoncer dans le sol, parce que c'est quand même l'une des forces de ce spectacle, eh ben, on sent bien que vous jouez là-dessus. Alors, comment? Qu'est-ce que vous avez touché dans la dimension des mâts ou du plancher ou pour faire que ça nous fait nous sentir étrangement petit ou étrangement grand?
Je pense qu'il y a le gradin lui-même qui est surélevé, c'est-à-dire les pieds des premiers rangs ne sont pas au sol, ils sont déjà à un mètre. Et donc comme on accède au gradin par l'extérieur, on est obligé de monter des escaliers puis de redescendre, déjà ça bouleverse un peu la perception de l'ensemble. Ensuite la coupole est suffisamment haute pour qu'on puisse y faire du trapèze. Et du coup, on a un dessous. Donc c'est vrai que... Et on a cette piste qui est très serrée au gradin. Donc on a cette sensation d'être vraiment collé à la piste, d'être coude à coude avec les autres spectateurs. Le gradin est très pentu. Donc on est comme...
On a un petit vertige quand même.
On a un petit vertige, voilà. Bon, et ça, tout ça, je pense qu'en effet, comme vous dites, ça a fait un mélange de, on est un peu comme perdu, et je pense que ça c'est intéressant. Surtout que comme le gradin est complètement circulaire, aussi souvent on est perdu même, on ne sait plus par où on est rentré, par où on est sorti.
Vous-même, vous voulez dire?
Ouais, parfois oui.
Ça nous arrive.
Et ce plancher, il est découpé. On reparlera du cercle, parce que c'est vraiment un dessin important, presque du point de vue de la pensée. Mais il y a autre chose qui est dessinée, c'est sa possible décomposition de ce plancher-là. Moi, j'étais jamais rentrée dans un chapiteau du cirque Trottola, alors je ne sais pas si le plancher est toujours découpé, ou est-ce que c'est la première fois?
Non, on l'a fait pour ce spectacle-là. Et non, on change chaque fois de... Après, on est toujours en cercle, en rond, parce que voilà, pour nous, on aime ça. On aime que les gens soient tout autour de la piste. On aime sentir tous ces yeux qui nous regardent autour. Après, non, c'est pour ce spectacle-là qu'on a fait ça.
Et alors, vers quoi ça mène, ce plancher découpé?
En fait, le précédent spectacle, Matamor, les gens nous voyaient du haut de ces gradins. Ils voyaient comme au fond d'une fosse. Comme une fosse à ours. Et on a récupéré ce système et on l'a bouché. Et du coup, ça nous a permis d'avoir un dessous. Alors, on joue avec le dessous, l'antre. Alors, je sais pas si c'est l'inconscient ou la nuit ou le passé, l'enfance.
C'est tout ça. Hein, oui.
Et puis, on surgit de ça pour aller vers la lumière, vers le haut. On est parti un peu de... Alors, c'est forcément, au niveau scénique, ça... C'est précieux parce que ça, on a des jeux de trappe, on peut ouvrir, et puis il y a cette espèce de trou où il y a rien, où il y a tout, il y a des dinosaures, des tempêtes, je sais pas, mais on y met ce qu'on veut, quoi. C'est voilà, bon, on est parti de cet effet-là.
Et quand vous dites que vous en êtes parti, c'est vous êtes aussi parti de ce trou-là pour écrire, pour imaginer ce spectacle, Titoun et Bonaventure Gacon. On a presque l'impression que c'est comme une sorte de trou noir aussi de sens, quoi. À partir de quoi tout a pu se dérouler.
Ouais, nous on s'est dit qu'on partait du rien. C'est-à-dire, ça rejoint ce que vous dites, mais je pense qu'il y avait cette espèce du noir, du dessous, des profondeurs, des abysses. Et on trouvait ça intéressant que ça parte de là. Que ça ne parte pas forcément de quelque chose de consciencieux, ou d'une idée, ou de quelque chose d'humain. On avait presque envie que ce soit... quelque chose de très ancien ou d'archaïque du temps des menhirs, je sais pas.
De la matière, presque.
De la matière, voilà. Ouais. Et alors vous disiez êtes... volcanique, je pense ouais. Que ça nous a plu.
Vous vous êtes dit quoi? Vous vous êtes dit on va raconter quoi? Dans les mots que vous échangez?
En fait, on parle pas trop de tout ça. C'est toujours assez étonnant la manière dont on crée un spectacle parce que, bon, on a aussi l'avantage, c'est d'avoir notre propre lieu. Donc, on a un nouveau chapiteau, on a des nouveaux camions, on a des nouveaux gradins, on a tous ces trucs-là et tous ces éclairages. Et ça fait qu'on a beaucoup de choses à penser autour du spectacle. Et le spectacle, il vient un peu comme... on sait jamais, en fait, comment il vient, quoi. On fabrique un décor, on met pas mal la main à la pâte aussi, nous. Et puis petit à petit, après voilà, il y a aussi les entraînements de cirque qui mettent un cadre dans c'est la discipline du cirque, c'est voilà, il y a les entraînements fixes tous les jours. Du coup, il y a des choses qui naissent, on ne sait pas vraiment en fait comment ça arrive.
En faisant quoi.
En faisant, on n'est pas du genre à vouloir trop. on essaye de fuir de trop l'intellectualiser et trop de mettre de concepts, tout ça. On veut pas tomber là-dedans. Donc,
pourquoi?
Parce que pour nous, le cirque, ça reste très animal, ça reste très instinctif, ça reste, je sais pas comment dire, simple.
Et alors, vous vous méfiez de vouloir trop raconter une histoire, par exemple?
Je pense, ouais. Je pense que la force du cirque, c'est que les gens se mettent en cercle pour essayer de comprendre une réalité qui, on sait, est changeante. Et comme s'il aurait fallu être autant de gens autour, avec autant de yeux, pour peut-être déceler cette réalité-là. Et donc, si nous, on arrivait avec nos gros sabots en disant « Nous, on a compris,
on va vous raconter
cette histoire-là », ça va être frontal, ça va être brutal. Et c'est pour ça que je crois que ce que dit Titoun, c'est qu'on s'est gardé de respecter cet engagement-là, que cette promesse que donne le cirque aux spectateurs. C'est-à-dire que c'est eux qui vont créer le rapport. C'est eux qui vont, avec leurs yeux, avec leurs mains, avec leur cœur, vont faire que on va dessiner cette réalité-là. Et donc, on essaye de travailler, Titoun et moi, et puis Bastien et Thomas aussi, qui ont vraiment participé à la création du spectacle, pratiquement travailler à rebours, c'est-à-dire de se mettre comme juste dans la sensation, dans l'émotif, et de pas trop polluer ça avec en essayant de raconter ça.
D'ailleurs, il y a plein de questions. Il se passe quoi, là? Voilà. On est où, là? Qu'est-ce qu'on sent? En fait, c'est beaucoup ça, hein, quand il y a des mots.
Oui, c'est sûr.
C'est beaucoup de questions. C'est beaucoup
vrai.
De choses en creux, en fait. Dans lesquelles nous, avec nos imaginaires, nos cœurs et tout ça, on dit, il se passe peut-être ça. Il y a peut-être ça. On est peut-être en train de sentir ça. On se débrouille, quoi.
Voilà.
Vous nous laissez nous débrouiller.
C'est vous qui faites le spectacle.
Vous démerdez maintenant.
C'est vrai.
Je suis passée dans une école de cirque où j'ai fait des tractions, des abdos, etc. J'ai appris le trapèze. Un résultat qui a eu lieu là, celui qui a eu lieu, c'est que je me suspends maintenant à des barres. Pourtant, quand on regarde un enfant qui apprend à marcher, il fait pas des squats, il fait pas des exercices d'équilibre sur une planche de proprioception. Il explore et il a le désir fou de se balader, quoi. Et ça fait qu'après, pendant ce temps-là, il est capable de marcher, d'avancer. C'est-à-dire que je suis plus dans un rapport où il y a un projet volontariste qui va mettre en place un ensemble de sommes d'exercices et de conditions qui vont permettre une chose future. J'ai envie de rester dans ce présent, justement, vraiment d'être là. Et je crois que maintenant, je suis guidée par mon désir fou de suspension et de voir là-haut et de sentir justement ces flux atmosphériques, de baigner dans cette eau aérienne, parce que souvent on me dit, quand on voit, on dirait que vous êtes dans l'eau. Oui, mais parce que l'air aussi, c'est du fluide, en fait. Et l'air existe, c'est là. C'est pas parce qu'on ne voit pas encore que ça n'existe pas. Et j'ai réalisé, il y a quelques temps déjà, en rêvassant, je sais même plus à quoi, qu'on dit qu'on est sur Terre ou qu'on est des terriens, mais en fait, on a juste la plante de pied à travers la semelle d'une chaussure qui touche la Terre. Et quand on regarde tout ce qu'on a comme peau qui touche l'air, on peut dire qu'on est absolument aérien, qu'on vit le ciel, on vit dans le ciel, avec le ciel et dans les flux célestes.
C'est la voix de Chloé Moglia qui était venue à ce micro nous parler de son travail. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un qui, comme elle le dit, est guidé par le désir fou de se suspendre. C'est le mot « surprendre » qui est venu dans ma bouche, mais c'est se suspendre qu'elle fait. Et elle parle de ce qu'elle a passé comme temps à l'école du cirque, d'abord. Pour ensuite peut-être s'éloigner d'une volonté. Est-ce que vous pouvez nous parler l'un et l'autre, Bonaventure Gacon et Titoun? Tout à l'heure, vous disiez, Titoun, on s'entraîne tous les jours, il y a une discipline du cirque forte à laquelle nous nous tenons. Ce qu'il vous reste de votre formation, et qu'est-ce qui, à la fois, à quoi vous tenez fort et de quoi vous vous êtes éloigné?
On a rencontré, je pense, des gens qui ont été vraiment très important dans notre parcours. Moi, je pense à François Cervantes et Catherine Germain. Il y a eu André Simard pour l'acrobatie. Plein d'autres. Mais c'est vrai que moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce qu'a dit Chloé, c'est qu'en effet, on sent aujourd'hui dans les écoles du cirque comme s'il y avait une recette et qu'il fallait faire beaucoup de musculation pour arriver à faire des choses. Ils font beaucoup trop de musculation. ce qui fait que ça fait des corps très rigides qui sont modelés non pas par le travail qu'ils font en acrobatie, mais par la musculation. Et du coup, ça donne une dérive, ça rend par exemple l'acrobatie plus stérile parce que elle est très dirigée par une façon de faire d'abord, alors qu'elle devrait être dirigée par le mouvement lui-même. Comme un danseur, il a une musculature particulière, un acrobate ou un nageur, c'est particulier à chaque discipline. Et je pense que ça, c'est ce qui est un peu dommage en ce moment, c'est que c'est très dirigé comme de la gym, en fait. Et donc après, ça empêche un peu la créativité de trouver, comme disait Chloé, c'est-à-dire un enfant, lui, il n'a pas appris à se muscler en faisant de la musculation, il a appris en grimpant aux arbres ou en sautant sur un manège. Et ça change tout, quoi. Ça change aussi l'approche qu'on a avec l'acrobatie.
Mais par exemple, quand vous dites aujourd'hui les écoles de cirque, ça veut dire que vous n'avez pas appris comme ça?
Bah déjà maintenant, les écoles de cirque, bon, déjà, il y a un truc que moi, me scandalise beaucoup, c'est qu'il faut le bac pour aller dans une école de cirque, et ça, je trouve, c'est un peu dur, parce que jusqu'à présent, je pensais que le cirque, c'était un peu surtout bien pour les cancres. Et voilà, moi, je suis partie à 15 ans à Montréal, et parce que voilà, j'ai, ça n'allait pas du tout à l'école, puis surtout, j'avais la passion du cirque depuis l'âge de 12 ans, et c'était super, j'ai fait 3 ans d'école et point barre, quoi. Et maintenant, il y a beaucoup d'écoles préparatoires. Enfin, souvent, on regarde, ils restent entre 8 et 10 ans dans les écoles, et c'est beaucoup trop, quoi. Enfin, c'est une école de cirque, d'accord, mais c'est une école. Et je pense, moi, j'ai l'impression que quand on décide de faire du cirque, on n'aime pas trop les écoles.
Et vous avez appris quoi quand même dans ces 3 ans que vous avez aimé et qui est encore en vous? Parce que, sans faire offense à qui que ce soit, vos 15 ans sont un peu loin maintenant.
Ah, ça c'est sûr.
Hein, ça, on est d'accord sur le fait que Montréal, les 15 ans, c'est un peu loin.
C'est ça qui est drôle, c'est que quelque part, ce que j'ai appris dans cette école pendant ces 3 ans, eh ben, il reste pas grand chose, parce que voilà, c'était du grand trapèze ballant. Maintenant, je fais un autre style de trapèze avec plein de trapèzes et une autre invention. Et puis surtout, j'ai rencontré Bonaventure et je me suis mis à faire du main à main, chose que j'avais pas fait à Montréal. Et ça, on l'a fait complètement hors école. Et il y a plein, voilà. Après, il y a d'autres disciplines avec les musiciens qu'on a formés à faire des portées et aussi avec la cloche qu'on fait des acrobaties. Tout ça, c'est des choses. C'est pour ça qu'on a besoin de répéter le matin, parce que à chaque fois, on se met des nouvelles choses. Et ça, c'est pas dans les écoles qu'on les apprend.
Et c'est dans cette discipline de la répétition quotidienne que vous trouvez, que vous inventez, que ce qu'on peut appeler, je sais pas comment vous les appelez, vous, les moments ou les numéros, c'est là que ça naît. C'est en faisant.
Oui et non. Après, il y a des envies, voilà, il y a des envies de, par exemple, la cloche, elle est arrivée, et bien sûr que avant de penser à l'acrobatie, on pensait, enfin, c'est
à la cloche.
À la cloche, ouais, voilà. Et après, avec les musiciens, ben, on s'est dit, on va pas faire une création où nous on est dans notre coin en train de tourner en rond dans le chapiteau, puis tout d'un coup on demande aux musiciens venez faire une musique sur un truc. Non, on leur a dit on fait ensemble, et eux, ils étaient hyper partants pour ça. Donc tant qu'à faire, on a pris du temps à bosser des portées avec eux. Et voilà, tout ça c'est arrivé par la force des choses. Et l'idée d'avoir plein de trapèzes, ben, je pense que c'est un peu comme Chloé, elle cherche plein de choses en l'air. Moi aussi, hein, j'ai fait toutes sortes de trapèzes différents. Et du coup, je me suis dit c'est rigolo d'avoir 3 trapèzes dans un chapiteau pour une seule personne. Et du coup, il y a les musiciens qui animent les trapèzes et Bonaventure qui me longe. Donc, c'est toutes ces choses-là, ouais.
Et c'est tellement émouvant, d'ailleurs, le moment où cette espèce de... Je disais tout à l'heure, la musique qui porte à bout de bras, mais ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que le moment des trapèzes, pour que les gens se visualisent, tout le monde est à l'œuvre.
Ouais, exactement.
Vous êtes en l'air.
Ouais.
Vous, on vous voit. Il se trouve que moi, j'étais dans le côté Bonaventure Gacon, où vous êtes à la longe. Donc, on vous voit. On vous voit suivre tous les mouvements de Titoun. Et les deux gars qui sont en train de faire de la musique, ils pensent aussi au top pour lancer le trapèze au bon moment pour que vous ne le loupiez pas. Et donc, on sent vraiment que si tout le monde n'est pas là, il n'y a pas de cirque.
Exactement.
Et c'est vraiment...
C'est la notion de la troupe qu'on aime bien défendre.
C'est quoi le main à main dont vous parliez tout à l'heure, Titoun?
C'est les portées acrobatiques.
Vous nous en parlez un peu?
Ouais. Alors, c'est une discipline dans le cirque, c'est de l'acrobatie, c'est-à-dire souvent c'est un porteur et une voltigeuse. Et donc c'est des jeux d'équilibre et puis aussi d'acrobatie où la voltigeuse est jetée en l'air puis rattrapée à l'envers sur les pieds, elle fait un salto, etc.
Elle est jeuse forcément, c'est forcément une femme?
Non, non, bien sûr que non. Non, non, il y a aussi les portées acrobatiques, les banquines, etc. Par exemple, il y a cette troupe très connue, XY, où ils sont une vingtaine à faire des portées acrobatiques. Il y a des hommes, des femmes. Il y en a même parfois qui ont le même gabarit. Parfois, c'est deux frères qui font la main à main. Il y a plein de façons. Voilà. Et c'est sûr que, par exemple, quand il y a un petit gabarit, et puis un costaud, ça aide, on va dire.
En tout cas, ça fait aussi des images. Et ce qui est certain, c'est que dans Campana, de ce spectacle-là, du Cirque Trottola, on voit aussi vos corps. Il y a vraiment quelque chose qui se raconte. Là, tout à l'heure, on disait, qu'est-ce qui se raconte au fond? Ce qui se raconte, c'est aussi vos corps. Moi, je me demandais, qu'est-ce que ça fait d'être porté? Qu'est-ce que ça fait de porter comme ça? Parce que bon, dans la vie, ça arrive peu souvent. Enfin, moi, par exemple, ça m'arrive pas très souvent. Alors vous, qu'est-ce que vous aimez là-dedans?
Dans le fait, c'est sûr que maintenant ça devient presque quelque chose de normal, vu que ça commence à faire un petit moment, comme vous dites, qu'on fait ça. Et c'est sûr que c'est, oui, je pense qu'il y a un côté où on est toujours l'impression de l'exploit, et c'est hyper agréable de faire des petits exploits, ça c'est sûr. Et puis de pouvoir en faire partager ça aux gens. Oui, je pense qu'il y a de ça, et l'image que voilà de deux personnages qui font des trucs ensemble, tout ça, et ça c'est quelque chose, oui, que ouais, je sais pas comment dire plus, mais
il y a un rapport qui est sans l'un et sans l'autre, on ne peut pas le faire.
On y revient, c'est ça.
Et sans la particularité de l'un et de l'autre, on n'y arrive pas. Donc on arrive ensemble à faire quelque chose d'exceptionnel, on va dire, ou une acrobatie. Et je trouve que dans ce rapport entre, en tout cas, homme-femme par exemple, c'est assez délicat, parce que chacun fait son boulot. Si un des deux commence à vouloir faire le travail de l'autre, ça marche pas. Voilà, il faut que chacun fasse bien son travail en comptant sur l'autre qui fasse le sien.
Et puis il y a aussi une confiance qui arrive, qui est assez joli, incroyable. Voilà.
Du coup, naît une confiance, et puis naît un espèce de, je dirais, un petit tableau qui est assez joli de voir que deux êtres arrivent à faire quelque chose parce qu'ils ont décidé de le faire ensemble.
Et d'ailleurs, on peut dire que Campana parle, si on essaye de dire de quoi ça parle, qu'est-ce qu'il y a, ça parle beaucoup de qu'est-ce qui est possible de faire ensemble et qu'est-ce qui se passe quand c'est plus possible. Et pourquoi c'est pas possible quand c'est pas possible. On peut dire ça quand même.
Oui. Ouais.
On peut dire que à la fois vous montrez toutes les fois où ça marche et que ça peut être éclatant, et toutes les fois où on décide de foutre un humain dans le trou plutôt que de s'amuser à le faire voltiger. Ouais. Est-ce que je suis la seule, mais je crois pas, à avoir pensé à des forts, puissants phénomènes d'expulsion qui traversent notre société contemporaine, ou d'exclusion, et qui seraient, qui traverseraient comme ça, comme un fantôme, Campana?
Merci de voir ça,
ouais,
parce que
ça
nous touche, parce que je crois que c'est ça. On était d'abord assis devant l'impermanence, déjà le temps qui passe, d'être bouleversé par ça. On a des êtres chers, on a perdu des êtres chers, et du coup je crois que ça nous a poussé à ça, et ensuite de voir comment dans l'adversité, comment avec le temps qui passe, comment les êtres font pour continuer à faire des choses ensemble, ou pas, ou à, en tout cas à exister. Et je crois que ça me fait très plaisir ce que vous dites, parce que c'était vers ça qu'on tendait, c'est-à-dire une espèce de fil qui dit comment c'est possible de continuer la vie à deux, ou au milieu d'une arène, ou avec la pesanteur, ou avec le temps qui passe, avec les douleurs, etc.
Et comment on regarde quand c'est pas possible? Ou qu'est-ce que ça peut donner si on s'attarde deux secondes de regarder quand c'est pas possible?
Bien sûr, c'est ça. Ça fait partie de... Ouais.
La fragilité humaine, en fait, la maladresse, quelque chose, la gaucherie est quelque chose qui fait rire, certes, mais qui aussi attache. Quelque chose qui est tellement parfait, on sait pas bien comment le regarder, en fait. Je pense que je suis particulièrement sensible à ces choses qui n'y arrivent pas vraiment.
Inventer una nuova cenizas, un creador lejos olvidada. Sale una luna de plata, sembrando amor y sonrisa, y como si fuera prisa, por los campos alumbrando, llega y se queda mirando la tapera silenciosa, donde la chinita hermosa está a lo lejos mirando.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux, Titoune et bonne aventure.
Junto al talar silencioso, María la paisanita, aquella linda criollita, espera su bien dichoso, que es el gaucho más bonoso, el que supo conquistarla, y que ahora para mimarla.
Avant la voix de Carlos Gardel, il y avait celle de Maggie Marin dans les entretiens donnés à Voynu en 2017 sur France Culture, qui parlait de la maladresse, de la gaucherie, et qui disait surtout « c'est très difficile de regarder quelque chose de parfait ». Et en fait, on entend bien que quelque chose de parfait n'a pas d'accroche et que du coup, c'est difficile d'y accrocher son regard. Mmh. On peut commenter ce que dit cette chorégraphe, oui. Maggie Marin, en parlant de la maladresse et de la gaucherie, parce que c'est aussi quelque chose que vous travaillez, mmh. notamment par exemple, pas que, mais notamment avec les personnages qu'on peut dire des personnages de clown, à certains moments. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Bah oui, pour moi-même, par exemple, dans le main à main ou dans les portées acrobatiques, on essaye de prendre le chose à rebours, c'est-à-dire pas être frimeur, pas être et presque de faire l'éloge de la maladresse, comme si c'était pas fait exprès, comme si c'était juste l'envie de faire de l'acrobatie qui nous avait fait faire de l'acrobatie.
D'ailleurs, quand vous dites ça, Bonaventure Gacon, je vois votre visage Titoune comme un peu étonné que ça ait marché cette fois-là, quoi. C'est vrai ou
c'est,
pas
vous oui, faites c'est un... vrai.
C'est vrai. J'imagine que c'est faux. Enfin, bah, c'est pas complètement...
Non, en fait, non, c'est pas faux. À chaque fois,
vous descendez, vous faites un tour de piste comme ça?
À chaque fois, je suis étonnée. Mais c'est... Oui, non, c'est vrai que je suis pour de vrai à chaque fois étonnée que ça marche.
Je vous ai coupé, pardon, Bonaventure. Ouais, je vous en prie.
Sur le clown, je trouve que c'est vraiment... C'est là où on voit vraiment ça, cet éloge de la maladresse. Je trouve que le clown, il est là pour se prendre les pieds dans le tapis. Ça raconte ça. Et c'est vraiment... Et ça part d'une sensation, d'une émotion, c'est pareil. Et puis ensuite, on... Voilà, j'aime bien dire ça parce que, par exemple, il y a... Quand quelqu'un a beaucoup aimé un clown... S'il en parle après à un ami...
Ça marche pas ?
Bah, il lui dit, ah, il avait des grandes godasses, ou il avait... Bah, l'autre, il reste un peu couac, parce qu'on voit bien que le rire, le clown, en tout cas, il passe pas forcément par quelque chose qui va se raconter. Ça passe par le cœur, ou par le bide, ou par le rire, quoi. Et je crois que la force du cirque, c'est assez ça. C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure... Ça passe pas par quelque chose d'intelligent où il n'y a pas une ceinture orange ou noire comme au karaté. C'est quelque chose d'assez fragile en fait.
Alors comment ça se travaille ? Parce que si ça n'est pas une ceinture orange et noire, où tout à l'heure on parlait de la discipline et du temps passé, et bien sûr que c'est une valeur, je pense, extrêmement importante. Mais alors comment on trouve cet endroit du clown pour continuer à parler de ça ? Comment on cherche ? Comment on tombe dessus par hasard ?
Je crois que c'est quand on commence à être ému par ce personnage-là. C'est quand, tout d'un coup, on n'essaye plus de faire, on commence à retomber dans l'émotif. Vraiment, c'est la sensation. Et à ce moment-là, c'est lui qui nous guide. Donc, je crois que le travail, en vrai... ce serait d'arriver à redescendre dans sa sensation, dans son émotif. Et je crois que c'est vraiment ça. Et tout d'un coup, les choses s'égayent. C'est ça qui est étonnant, c'est que on voit, par exemple, quand je suis sur la piste, je vois Rififi, c'est-à-dire le clown de Titoun. Je vois absolument Rififi, je vois plus du tout Titoun, que je connais, que je croise tous les jours, etc. Et ça, c'est une sensation qui est vraiment très agréable. C'est comme si on, tout d'un coup, on reconnaissait un ami d'enfance ou un petit animal qu'on aimait bien. Et cette sensation-là, elle est porteuse de rigolade, elle est prometteuse de conneries, d'intimité, de choses vraiment ridicules et de se prendre les pieds dans le tapis de maladresse. Et la maladresse ramène, nous rappelle à l'humain. Et je crois que le cirque, il a cette qualité-là, surtout le clown, c'est de ramener à l'humain, de ramener au cœur, de ramener à la sensation d'être éloigné justement de quelque chose de mondain ou d'intelligent. Et ce qu'on aime beaucoup au cirque, c'est qu'on retrouve, pour nous, c'est un langage qui est universel parce que il y a toutes sortes de gens qui viennent. Des gens qui souffrent, des enfants, des gens très intelligents, des petits, des gros, des alcooliques. Il y a toutes sortes de gens. Et je trouve que le cirque, il arrive à parler au cœur des gens. Alors c'est pour ça qu'on disait, nous, on s'est bien gardé d'avoir soit un concept ou un propos ou une phrase qui va dicter la façon de voir aux gens ou leur dire, voilà, c'est comme ça qu'il faut penser au cirque, c'est comme ça qu'il faudrait voir le spectacle. On aimerait que vous voyiez le spectacle de telle ou telle manière. Nous, on s'est dit, on le fait, c'est eux qui vont faire le spectacle. Et je crois que ça rejoint ça. Et le clown, il est là parce qu'il a cette fragilité en lui, cette espèce d'émotion qui, dès qu'on commence à la saisir, s'en va. Et donc, le travail du clown, réellement, c'est d'arriver à ce qu'elle soit là sans essayer de la saisir instantanément, puisqu'on sait petit à petit qu'elle s'en va si on la saisit.
Et ça veut dire que ce sont des personnages qui existent depuis longtemps ? Rififi et...
Rififi, non, Rififi, c'est tout récent.
Il est tout neuf.
Ouais, il est tout neuf. Mais par Boudu, lui, ça fait déjà un petit moment qu'il existe.
Et alors, il se passe quoi? Parce que tout à l'heure, Bonaventure Gacon, vous disiez « Quand Rififi arrive, j'oublie Titoun, c'est Rififi ». Et donc, ça ouvre un monde très spécifique. D'ailleurs, même une voix, vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais quand vous avez prononcé son nom, là, en studio, vous avez basculé dans la voix qui serait peut-être la vôtre pour parler à Rififi. Et vous, Titoun, quand vous voyez apparaître le clown Boudu, ça se passe comment? Vous oubliez complètement Bonaventure
ouais,
Gacon.
Pareil. C'est clair que, comme il dit, voilà, ce qui marche le mieux. Enfin, là, on a l'impression de vraiment vivre le clown, c'est quand on s'oublie.
Quand les deux clowns se parlent entre eux sans nous, quoi.
Voilà, c'est ça. Et on s'oublie vraiment. On réfléchit pas. Qu'est-ce que je dois faire? Des fois, on est étonné de voir son bras qui bouge comme ça, sa jambe qui, sa patte folle qui bouge, son regard qui s'arrête sur quelque chose. Et c'est sûr que c'est quand quelque part. Ça devient incontrôlable que c'est là que c'est le plus chouette à faire.
Et ça se loge à un endroit en vous? Est-ce que vous avez l'impression qu'il est localisé, Boudu et Rififi?
Non, je crois pas. C'est dans la voix, c'est dans le corps, c'est vraiment parfois dans un petit geste, c'est dans un regard. Et je crois que c'est un ensemble, vraiment.
Ouais.
On convoque, en fait, ces deux bestiaux-là qui viennent. Et pour dire que on n'est pas tout seul, parce que je crois que vraiment le clown, il existe parce que il est regardé.
Ouais, c'est ça.
C'est vraiment important. C'est comme, je crois qu'il y a des gamins qui font ça. Tout d'un coup, ils se savent regarder et ils se savent rire. Alors, ça prend. Puis, alors, ça augmente. Et puis, à ce moment-là, on voit même plus ces gamins-là, on voit des clowns.
Quand Boudu arrive, il se prend pas mal, hein, les pieds dans le tapis, l'échelle dans le mât. Ça me promet de se casser la figure plusieurs fois. Et quand il part, il est triste de laisser Rififi. Il est triste que tout le monde ait laissé Rififi. Et il nous interroge sur notre responsabilité du moment, mais peut-être plus largement sur pourquoi est-ce qu'on laisse les Rififi comme ça, parfois, crever tout seul. Et d'un seul coup, ben, on parlait de la transformation de l'air, mais je peux vous dire que ça bruisse autrement dans ce chapiteau. Le sentez-vous, l'un
oui.
et l'autre?
Oui, bien sûr.
Bien sûr, ouais. Oui, c'est sûr. Mais voilà, encore une fois, on voulait l'amener, mais et en plus, on voulait, encore, je dis ça, mais c'est arrivé comme ça, cette histoire, et parce que voilà, tout ce qui se passe en ce moment et tout ça. Mais on voulait pas non plus l'appuyer lourdement, quoi. Et des gens, voilà, il y a des gens qui ont un petit... qui ressentent quelque chose à ce moment-là, c'est sûr.
Je crois qu'aussi, le cirque, j'ai l'impression que le cirque, il a lutté contre, il a des camions. Ensuite, il a lutté contre la pesanteur. Il a lutté contre le poids, les tempêtes, les ornières, etc. Il a fait le tour du monde. Il a apprivoisé des animaux exotiques, etc. Mais il y a une chose qui, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à contrer, c'est le temps. Souvent, quand le cirque, il est très lié à une nostalgie, à quelque chose, à un monde un peu perdu. Et ça procure une espèce de tristesse ou quelque chose que, justement, qui est insaisissable. Et moi, dans le clown, ça m'a fait ça. Quand on travaillait, là, ce spectacle, je commençais vraiment, j'avais beaucoup d'empathie pour ce Rififi que j'avais maltraité comme ça. Et puis, et j'avais besoin de l'exprimer comme ça. Et ça racontait aussi ça, ce moment éphémère de se dire on va plus se revoir. Cette fragilité-là, qui était celle du clown, du cirque, on est en train de la boucher, elle est comme, elle est mise dans le trou, on a rebouché quelque chose par-dessus. Et plus largement, dans la société, bien sûr, on voit ces gens qui sont sur les routes, qu'on veut écarter, qu'on aimerait bien les mettre sous un trou, ne plus en parler. Alors que c'est ces gens-là qui sont la fragilité et qui sont donc aussi qui sont précieux puisqu'ils sont fragiles. C'est comme si on mettait de côté des enfants parce qu'ils sont fragiles, alors qu'ils sont précieux. Et cette fragilité-là, elle est au cirque, elle est dans son essence au cirque parce que elle, par son chapiteau, parce qu'on est nomade, parce qu'on est en caravane, on n'a pas de mur, la toile du chapiteau est en plastique, en PVC, il y a le vent, il y a les tempêtes, etc. Et il y a aussi la fragilité des personnages, la fragilité des mains, du trapèze, des corps. Et je crois que avant tout, on avait envie de parler de cette fragilité-là, parce que pour nous, elle est précieuse, autant que pour les gens qui sont dehors. Moi, je pensais, là, j'ai un petit peu le rhume. Je me dis, ah, moi, j'ai le rhume, j'étais là tout tristouné, en plus, je joue, etc. Puis je me dis, mais les gens qui vivent dehors, non seulement ils vivent dehors, mais en plus, ils ont sans doute le rhume. Et tout d'un coup, ça m'a relié à eux d'une certaine façon. Et tout ça, c'est émouvant. Et je pense que, moi, j'adore le cirque et le clown. On adore le cirque et le clown pour ça, parce que je crois que c'est fragile. C'est pour ça.
D'ailleurs, tout à l'heure, quand on essayait de dire tout ce qu'il pouvait y avoir dans ce trou noir qui est le sous-sol, le point noir, la matière noire du spectacle, eh ben, vous faites l'inverse de ça. C'est-à-dire, vous faites l'inverse de refermer le couvercle pendant tout le spectacle et jusqu'à la fin. Vous faites que ouvrir le couvercle et voir ce qui sort. Fumée, échelle, bonshommes, éléphants, humains, fragiles, pas fragiles, etc. C'est bien que quand on sort, nous, du spectacle, il y a quelque chose de très exalté. C'est comme si on avait ouvert toutes nos trappes, quoi. Voilà.
Merci.
Je gonfle. Je gonfle. Ça fait 30 ans que je gonfle comme ça. Sur la plage. Des fois, on voit passer des gens. Alors, c'est bizarre, je gonfle depuis 30 ans et c'est pas encore fini d'être gonflé. Alors, je continue. Ça m'ennuie pas de gonfler. Je me demande quand même s'il n'y a pas une fuite.
Je vais essayer de justifier la programmation de Christophe Tarkos qui gonfle, même si bon, on fait ce qu'on veut, hein, la question n'est pas là, mais sans dire pourquoi, parce que j'aimerais bien pouvoir laisser la surprise à celles et ceux qui vont venir voir votre spectacle. Donc, comment je vais faire? Je vais vous poser la question, Bonaventure Gacon et Titoun, de la présence des animaux dans le cirque Trotola. Et vous laissez vous débrouiller avec ça. J'ai dit qu'il y avait un chat bleu, mais peut-être c'est une panthère.
Non, ni l'un ni l'autre, c'est un singe.
Ah, c'est un singe.
Ouais.
Ah,
mais en même temps, j'aime bien que chacun voit ce qu'il veut.
Ah oui, j'ai vu un chat bleu pailleté.
Il y a des enfants qui voient panthère, il y a beaucoup de femmes qui voient des chats d'ailleurs. Et ça m'est arrivé d'autres écureuils ou des trucs comme ça, mais... Moi, j'étais plutôt partie sur un singe, mais après, j'aime bien qu'on l'a laissé justement assez ouvert que tout le monde peut voir un peu l'animal qu'il souhaite voir là-haut.
Donc ça, c'était un petit indice sur la présence des animaux. Votre indice à vous, Bonaventure Gacon. Déjà, ils sont invités.
Ah, ils sont invités. Hein. Ils sont là, ils sont chez eux. Ils sont au cirque. Donc, oui, il y a un animal qui vient. Et je crois qu'il y a une musique assez triste qui est dessus. Et il vient s'inviter et il vient disparaître. Et du coup, je crois que ça raconte où on en est aussi avec le cirque, où on en est avec l'enfance perdue, avec ces souvenirs-là. C'est pour nous, en tout cas, quand on l'a fait, on a été très chargé de sens pour nous. Alors j'espère que ça l'est aussi pour... voilà, il y a l'impermanence... du sauvage, de l'enfance, qui va et qui s'en va, qui s'éteint. Voilà.
Pour quitter peut-être le terrain des animaux, parce qu'il nous met mal à l'aise, il nous obligera à dévoiler une vision importante. Parce qu'il y a quelque chose vraiment comme ça aussi dans Campana, qui est... C'est pas vraiment que ça va finir, c'est qu'il y a une conscience de la fin. Et ça teinte... les gestes que vous faites l'un et l'autre, et ça teinte aussi la musique, comme si, même si par exemple, vous pouvez, Bonaventure Gacon, dire ces mots de Reggiani remplis d'amour, remplis d'espoir, etc., la mort est là, elle plane, elle vous frôle d'ailleurs, juste après, elle manque de vous assommer, comme si, tout vivant que vous soyez, la mort avait été très présente pendant l'écriture et la réalisation de ce spectacle-là.
Oui, c'est vrai.
Ouais. Oui, elle a été présente fortement. C'était un moment délicat. Titoun s'était blessé. Et moi, je venais de perdre ma mère. Et on tournait autour de ça, bien sûr.
Oui, c'est sûr.
Est-ce que c'est toujours là, forcément, dans le cirque?
Je crois que le cirque raconte ça. Il raconte cette émotivité-là que les choses, ça a une fin. Je veux dire, une belle écuyère, une trapéziste, elle va vieillir, on ne saura plus faire des saltos, le chapiteau va peut-être s'envoler, les camions ne vont pas démarrer. Forcément, on raconte ça. Et en même temps, on le sublime. Moi, c'est comme ça que j'ai vu le cirque, vraiment.
Ouais. Quand vous dites... j'ai vu le cirque, ça veut dire que ça a été comme une forme d'apparition dans la vie. Tout à l'heure, vous disiez ça, Titoun, et finalement, vous n'en avez pas vraiment parlé, vous, Bonaventure Gacon, de comment ça vous tombe dessus un jour, de comment vous le rencontrez.
J'ai rencontré les Saltimbanques à Chenauve, c'était un petit cirque près de Dijon. Et vraiment, j'ai été confronté à... je me disais, la réalité, elle est comme ça, il faut aller à l'école, il y a les bus, etc. Bon. Et j'ai rencontré le cirque et je me suis dit, c'est quelque chose qui arrive à tordre la réalité, à dire vraiment que la réalité, elle a plusieurs facettes. Tout d'un coup, il y a un chapiteau, tout d'un coup, on est sur les mains, on a la tête en bas, tout d'un coup, on voit un singe bleu, etc. On pouvait tordre cette réalité-là. Mais pas que dans l'esprit, c'est-à-dire que la poésie s'invitait tout d'un coup dans le réel, c'est-à-dire sur les places, avec des camions, avec des gens qui venaient, avec des gens qui viennent jamais au spectacle, qui ne lisent pas de poésie. Et là, on pouvait leur basculer le cerveau, et notamment les faire rire. Pour moi, c'est un des plus grands bonheurs que j'ai, c'est d'arriver à faire rire. Et tout d'un coup, le rire, on le voit bien, on ne sait pas d'où il est venu. On ne sait pas qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, on se met à rire. C'est ça qui est génial. Et c'est là où on peut vraiment dire que cette réalité qu'on croyait être là, tout d'un coup, elle est complètement bousculée par un rire. Et de cette torsion de la réalité m'a fasciné, moi. Se dire qu'on pouvait voyager et changer vraiment cette réalité, dire qu'elle elle est changeante.
Tout à l'heure, Titoun, vous avez dit, bon, pour la cloche, avant de penser à l'acrobatie, on a pensé à la cloche.
Ouais.
Très fort.
Ouais.
Bah, on y a pensé aussi.
L'art campanaire s'est effectivement perdu largement, c'est-à-dire que à la fin du XXe siècle, on connaît moins de choses qu'au milieu du XIXe siècle. Mais progressivement, en prenant le temps de le faire, en faisant les recherches, en appliquant une méthode scientifique, on retrouve petit à petit une partie du savoir-faire qui avait été perdu. Il y a un certain nombre de clochers, en proportion non négligeable, où les cloches sont fausses. Il y a un certain nombre de clochers où les cloches ont un son rugueux qui n'est pas harmonieux. Et il y a des clochers où les rythmes de sonnerie sont désagréables. Ils sont trop lents et c'est angoissant. Ils sont trop rapides, ils sont énervants. Et où ils sont mal réglés et donc on n'entend pas un rythme mélodique dans la sonnerie des cloches. Quoi. Le moment qui est le plus fort au niveau émotion, c'est pendant la coulée d'une cloche. Ça dure une minute et demie. C'est le moment où on est très concentré, où l'émotion est la plus forte. À la fin de la coulée, on sait que la cloche est réussie ou pas. C'est vrai que lorsqu'on ouvre le moule et qu'on voit cet objet brut, qui est déjà très fini, bien qu'il soit brut de fonderie, là c'est le plaisir, c'est la confirmation de l'intuition qu'on a eue en fin de coulée.
Je fais la 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 la. Le temps passera, tout ça s'effacera, l'histoire coulera, on ne sera plus là. Dans ce temps-là, moi je regarde toutes ces choses-là, j'écoute tous ces trucs-là, et je fais la 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 la. On chantera la 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 la, on dansera la 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 la. Je ne serai plus là.
Mais les cloches peut-être. Seront-elles là? Juste avant, on entendait Luigi Bergamo parler de l'art campanaire et de ces cloches qui semblent un peu plus petites que la cloche que vous sortez des sous-sols, de l'enfance, de l'inconscient, de je ne sais où. qui m'a fait penser à tellement de choses. J'ai eu tellement l'impression de voir une cathédrale, de voir une baleine, d'être dans un roman de Victor Hugo que je n'ai pas lu, ou chez Melville. Ou... Vraiment, c'était fou à quel point cette cloche elle avait une puissance littéraire et romanesque très forte. Comment est-ce que vous y avez pensé ?
Ça nous est venu d'un coup. On avait envie, justement, au cirque, de brasser quelque chose de lourd pour... Comme on avait les éléphants au cirque avant, ça passait dans des camions, etc. Et là,
quelque chose de lourd et quelque chose aussi de très émotif. Enfin, voilà, quelque chose qui brasse, quoi, qui brasse dans les tripes les gens. Et c'est sûr que ça, la cloche pour nous, ça représente vraiment tout ça, quoi.
Et puis c'est cette façon de, on avait envie de voir des gens. Brasser, tirer sur des palans, sur des cordages pour hisser une cloche, quoi. Parce que la cloche, elle fait qu'un son. C'est le plus gros instrument, mais elle fait qu'un son. Elle sert pas à grand chose. Elle est, et en même temps, elle est majestueuse.
Elle résonne. Ah oui,
elle résonne. De beaucoup d'harmoniques, mais elle a quelque chose de très direct. Pour nous, c'est le cœur qui bat tout de suite, quoi. Et c'est étonnant parce que quand une cloche, ça nous l'a fait à la fonderie, à Villedieu-les-Poêles, quand une cloche sonne, on sent les gens sont émus parce que ça prend beaucoup l'espace, mais c'est sur quelque chose de très simple. Donc c'est une poésie qui pèse quand même 800 kilos, quoi, qu'on hisse en haut du chapiteau. Alors je trouve on a trouvé l'idée vraiment formidable.
Et c'est aussi un objet qui rassemble les gens, et ça c'était aussi important pour nous parce que dans un cirque c'est super chouette de rassembler tous ces gens autour de cette cloche.
Et puis par ailleurs, vous parvenez à ce qu'elle devienne un objet de grande drôlerie. Ça, ça fait plaisir. Puisqu'on parle de résonance, moi j'ai souligné 4 fois une phrase dans ce spectacle-là. Je ne sais plus à quel moment vous la prononcez, mais je le disais en introduction et je vais le dire à la fin. Seuls les cœurs battants résonnent. Merci beaucoup, Bonaventure Gacon. Merci beaucoup, Titoun. Campana est visible en ce moment au 104 à Paris jusqu'au 22 décembre. Il reste un peu de place, mais quand même. Du 6 au 10 février à Istres, du 19 au 23 à Sète, du 9 au 13 mars à Elbeuf et du 23 au 23 mars à Fleury.
Hello, je viens pour dire hello en tout. Juste un petit coucou, bonjour. Je viens de faire le bonjour tout court. Juste un petit bonjour.
Ce soir, c'était Delphine Baudet à la réalisation. Lise-Marie Barré, de Villedieu-les-Poêles. Merci à Jeanne Aléos, Louque Vauvillier, Romain Debec de Lièvre, Marianne Chassor, qui prépare et pense cette émission tous les jours avec moi. Je vous souhaite une très belle soirée sur France Culture. Tout s'écoute quand vous voulez sur franceculture.fr et en podcast.